Lizzie présente Minuit New York de Mark Miller, lu par Tariq Mehani. Aliza, mon roc, ma boussole, qui m'a apporté l'idée un beau matin et qui a été ma première lectrice. L'amour est la seule force qui peut stopper un homme dans sa chute. Paul Auster.
Bonjour, Lorraine. Tu te souviens de moi? T'es encore seule ce soir, à ce que je vois.
Qui êtes-vous?
Quelqu'un qui s'intéresse à toi.
Ça suffit, je vais vous bloquer.
Je trouverai toujours le moyen de t'atteindre. Et de ton côté, tu ne veux pas savoir qui je suis, ni comment je sais tout ça sur toi.
Je m'en fous, pauvre taré. Vous ne m'intéressez pas. Rien qu'un dingo de plus sur les réseaux sociaux.
Tu ne veux vraiment pas savoir quels sont mes projets? Ils te concernent pourtant.
Bye, pauvre con.
Mon projet, c'est de te tuer, Lorraine.
Quoi?
Comme j'ai tué ton père.
Pauvre débile, mon père est mort il y a 28 ans.
Et on n'a jamais retrouvé son meurtrier, n'est-ce pas?
Et alors? N'importe qui peut trouver ces informations sur Internet.
N'importe qui ne peut pas savoir l'endroit où tu habites. 1 avenue Barbet d'Orvilly, 3e étage gauche. Ni que tu vis seul, pas de petite amie, pas d'animal de compagnie.
Qui es-tu?
Tu le sauras bientôt.
Tu crois que tu me fais peur? Tu devrais te faire soigner. Je vais prévenir la police. En attendant, je te bloque. Bye!
Au début, elle a cru que ça allait s'arranger. Elle y a vraiment cru. Il va s'arrêter, se disait-elle. Il se lassera. Il va disparaître de ma vie. Au début, elle a voulu y croire.
Prologue. Oh. Joe Tilson. Huile sur toile. Mai 2020. New York, le 28 mai 2020, aux environs de 8h du matin. Le soleil caresse les toits de Manhattan. Il se reflète dans les millions de vitres des gratte-ciel, flamboie dans les larges canyons des avenues, se faufile parmi les vertes frondaisons de Central Park, pénètre par les fenêtres à guillotine, les baies vitrées des bureaux, les vitres du métro aérien. Il entre de la même manière par les trois fenêtres d'un loft d'artiste, à Soho, dans Manhattan Midtown. Éclaire le grand corps allongé au pied du lit défait, sur le plancher de chêne. Éclaire pareillement les grands posters de Hans Hoffman et de Cy Trombley accrochés au mur. Le chien qui gratte le parquet et gémit près du corps. Elle a laissé la lourde porte métallique coupe-feu ouverte. Elle contemple la scène depuis le seuil, hébétée, terrifiée. L'instant d'après, elle se porte en trois pas jusqu'à lui. Elle entend sa propre voix qui le nomme.
« Léo !»
Pas de réaction. Elle s'approche de lui à travers le grand loft inondé par le soleil levant qui entre à flot, dansant et gai, alors qu'elle se sent glacée à l'intérieur. Étendu sur le sol, il a l'air en cet instant incroyablement calme, incroyablement beau.
Léo !
Silence. Hormis l'échappement plaintif du chien, un cocker spaniel qui, dans la seconde suivante, lèche affectueusement le visage de son maître, avec une application et une tendresse de jeune chien. Son maître, qui a l'air si paisible dans les rayons du soleil, et qui reçoit les coups de langue comme s'il dormait.
Léo !
Pas de réponse. Alors elle panique, elle tombe à genoux, le secoue, le gifle. Déjà les larmes coulent sur les joues de Lorraine, brillantes dans la lumière blonde du matin.
Léo, je t'en prie, ouvre les yeux, dis quelque chose, Léo !
Elle se penche, cherche son pouls. Sa respiration. Les trouve.
Il est vivant. Il respire.
20 secondes plus tard, il ouvre ses immenses yeux gris, à l'iris très pâle, et pose sur elle ce regard si plein de lumière qui la fait toujours fondre. Il s'efforce de sourire. Il est d'un blanc de plâtre.
Lorraine, tu es là. N'aie pas peur. Appelle les secours, dit-il très doucement. Appelle-les maintenant, mon amour.
L'instant qui suit, il a de nouveau fermé les yeux, et quoique respirant encore, il est très visiblement reparti dans les vapes. Lorraine sort son téléphone, sa main tremble, les larmes troublent sa vue.
Concentre-toi.
Elle s'y reprend à deux fois pour faire le 911. Une voix au bout du fil. Elle bafouille, s'en mêle les pinceaux. On lui demande calmement son nom, ses coordonnées, au cas où l'appel serait coupé. Elle déballe tout, mais la répartitrice la reprend, lui fait répéter. Elle a envie de s'énerver. Le calme de cette femme la met hors d'elle. Elle respire, explique. À l'autre bout, la femme comprend très vite que c'est grave, la prie de rester en ligne. Mais voilà qu'il rouvre les yeux. Dit « Take it easy », avant de sombrer une fois de plus. Il est très exactement 8h30 du matin, ce 28 mai 2020, à New York. Elle les regarde l'emporter sur une civière dont les roulettes grincent désagréablement sur le sol. Il a un masque à oxygène posé sur le bas du visage. Les ambulanciers, de leur côté, portent des masques en tissu fixés aux oreilles par des élastiques. Ses cheveux, qu'elle a trouvés un peu trop longs la première fois où elle l'a vu, encadre son beau visage aux paupières baissées. Et elle sent de nouveau la peur. Une peur toute puissante s'emparer d'elle. Elle les accompagne vers l'ascenseur, referme la porte du loft avec un dernier regard pour le cocker qui, seul au milieu de la pièce, lève le sien vers elle. Un regard triste, perdu, désemparé de chien sans maître. Et de nouveau, elle sent les larmes lui monter aux yeux. Wooster Street. L'ambulance blanche à bandes orange et bleues du New York Presbyterian Hospital a ses portes arrière grandes ouvertes. On hisse la civière. On la fait glisser dans les rainures. Elle voit Léo disparaître à l'intérieur, avalée par cette chose ululante. Puis, elle remonte rassembler quelques affaires. Elle se demande de quoi il aura besoin à l'hôpital. Elle sait aussi, en son fort intérieur, avec une certitude déchirante, qu'il ne reviendra pas. Première partie. Convergence. Jackson Pollock, huile sur toile. Chapitre 1. Si tu es déjà allé à New York, tu sais de quoi je parle. The Yardbirds, New York City Blues. 5 mois plus tôt. Il pleuvait à seaux renversés sur Paris ce lundi 9 décembre 2019. Elle referma la valise qu'elle avait jetée sur le lit dans son grand appartement presque vide du 1 avenue Barbé d'Orvilly, à 2 pas de la tour Eiffel. Elle, Lorraine de Marsan, fille de feu François-Xavier de Marsan et de Françoise Balsan. Il pleuvait et il faisait un froid de canard dans la capitale en ce mois de décembre. Mais Lorraine n'en avait cure. Dans un peu plus de 2 heures, elle s'envolerait pour New York, où, selon les météorologues, il neigeait. Lorraine aimait Paris, mais elle adorait New York. Il y avait dans cette dernière une énergie, une vibration qui la rendait unique, et quelque chose d'insaisissable. Une petite musique propre à New York et aux New Yorkais, ce peuple si différent des Parisiens, qui lui était infiniment familière. Bien que française, elle avait passé les premières années de sa vie dans la grosse pomme, avant que sa mère ne décide de rentrer en France avec armes et bagages, loin de la mégalopole qui avait vu grandir Lorraine. Aussi, chaque fois qu'elle y retournait, était-elle saisie par la magie étourdissante de cette ville, tout autant que par la sensation de rentrer chez elle. Son gros pull et son jean enfilé, son écharpe grise enroulée autour de son menton, elle consulta sa montre en faisant les 100 pas. 16h09. Son taxi serait là dans 1 minute. Allant jusqu'au balcon, elle observa une dernière fois la tour Eiffel, cernée par les bourrasques. Dehors, la tempête faisait rage, mais la vieille dame semblait indifférente aux éléments. Dressée dans le ciel sombre de Paris, comme un défi au temps qui passe, elle avait traversé sans encombre toutes les époques, toutes les crises, toutes les tempêtes. Se détournant, Lorraine vérifia la présence du passeport dans la poche intérieure de son manteau. Elle n'avait qu'une envie, être dans l'avion, dorlotée par les hôtesses et les stewards. Elle descendrait 1 ou 2 flûtes de champagne, regarderait un film ou une série, puis s'endormirait sous la douillette couverture et le masque de nuit fourni par la business class d'Air France, à 10 000 pieds au-dessus de l'Atlantique.